nice like that. It's all good. So I suggest you take a rest.
Radio G 101.5 FM.
Libby, and you, you've got to give him hope.
À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. À l'amitié, au beau jour, qu'ils éclairent vos parcours.
Don't press pause. Progress march on with the
Vous êtes sur Radio G 101.5 FM. Et c'est l'émission Quasar on the Air qui est là ce soir. Et qui est là ce soir d'ailleurs, en dehors du public. Merci public.
C'est un délire.
C'est un délire fou. Nous avons Arnaud qui va nous parler de quoi succinctement.
Je vais parler de programme télé. Enfin télé, c'est pas tout à fait juste, mais je m'expliquerai après et parler de la visibilité des LGBT dans les nouveaux médias.
D'accord. Mohamed, tu vas participer à ça. Tu as quoi d'autre si tu as quelque chose d'autre à nous dire.
Justement aussi participer à ça. Voilà.
D'accord. En dehors du fait que ça y est.
Justement.
Non mais sérieux, ça se célèbre quoi.
Ouais, tout à fait.
Bon, ça y est, t'as été reçu à ton examen de la CNDA.
CNDA non, OFPRA.
OFPRA.
J'ai pas eu la chance de connaître la CNDA. D'accord. Et pour moi, c'est une bonne chose.
Ok, mais tu pourras nous expliquer un petit peu le parcours, juste succinctement, maintenant que c'est fait.
Ça marche, ça.
Et puis nous avons un invité ce soir exceptionnel. Nous avons avec
c'est
nous.
Juste moi, c'est...
juste lui alors, voilà. Stéphane.
Mais qui est très exceptionnel quand même.
Bonsoir
mais
Stéphane. Non.
Et bonsoir à tous, on n'a pas dit bonsoir.
Ben oui. Oui, bonsoir.
Qui va venir nous parler de donner une leçon au parquet. Alors c'est pas clair vu comme ça, mais tout à l'heure vous en saurez plus.
Entre le carrelage et le parquet, j'ai fait un choix dans la vie.
Ouais.
Je m'attaque au parquet.
Ouais, t'as raison, il y a moins de joints.
Encore que, on sait pas.
Et puis bah, moi je vais faire des news et puis voilà, je virevolterai d'un sujet à l'autre sans aucun doute, ils ont tous très peur de moi. Normal. Et ben on va commencer donc par les news. C'est déjà moi. C'est parti. On arrête la musique et on devient sérieux. Wesley Wernicke. Vous connaissez pas hein.
Non.
Eh bien Wesley Wernicke, figurez-vous, est gay. Il est aussi américain. Il a été renvoyé d'une entreprise événementielle après des mois de brimades diverses, raconte-t-il dans sa plainte déposée auprès de la Cour fédérale de Manhattan. Exclu de réunions, d'événements officiels, des déjeuners entre collègues et des afterworks, dossiers importants, refusés, dossiers sur lesquels il travaillait déjà, confiés à d'autres. Patron chaleureux avec tous les employés, sans exception. Ben si, justement, sauf lui. Lui qu'il ignore ouvertement. La santé de Wesley s'en est ressentie. Il a consulté un psy qui lui a prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques. Mais est venue l'apothéose. Son patron, Henry David, l'a appelé dans son bureau pour lui dire que son salaire, initialement négocié à 10 300 euros par mois, allait être diminué à 5 000. Et en réalité, en fait, c'était 4 100. Soit 2,5 fois moins quand même. Henry David a confié à Wesley « Pensez que vous étiez beaucoup plus payé que les autres femmes du bureau m'empêchaient de dormir ?» L'avocat de Henry David a dénoncé des accusations infondées. Voilà, payé plus que les autres femmes du bureau, à méditer. Haïti. La nouvelle a été relayée par la correspondante de l'agence France Presse et correspondante de Radio France Internationale en Haïti, Amélie Baron. Charlot Jeudi, 34 ans, ardent défenseur des droits LGBT et le plus mobilisé d'Haïti, a été tué le 25 novembre. Les circonstances du décès sont encore floues. C'est une terrible nouvelle pour la communauté et plus largement pour les défenseurs des droits humains dans le pays. Plusieurs structures d'ailleurs, dont l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, Combat pour la paix et le développement et le Centre d'animation paysanne et d'action communautaire, se sont exprimés sur cette perte tragique tout en exigeant l'ouverture d'une enquête. Dans un rapport publié le 8 août sur ces trois dernières années, l'organisation Courage, K-O-U-R-A-J, si vous voulez aller chercher des informations, dirigée par Charlot Jeudi jusque-là, mentionnait des violences sur des personnes LGBT, dont un assassinat. En France, la Cour d'appel de Rennes a ordonné la transmission des actes de naissance de 6 enfants nés par GPA, gestation pour autrui, au Mexique et aux États-Unis au nom de l'intérêt de l'enfant, selon 6 arrêts. Dans ces 6 arrêts du 25 novembre, la Cour d'appel de Rennes reprend à chaque fois les mêmes motivations. Il s'est écoulé depuis la naissance de ces enfants entre 3 et 9 années. Je cite, durant lesquels l'enfant a été exposé au risque de perdre le seul parent titulaire de l'autorité parentale ou de subir la séparation du couple. Le parent, à l'égard duquel la filiation n'a pas été établie, ne pouvait alors, je cite, faire valoir aucun droit ni supporter aucune obligation envers l'enfant qu'il a pourtant élevé pendant de longues années et dont le développement harmonieux est conditionné par le maintien des relations effectives entre ses deux parents. Écrit la Cour. Imposer, dans le cas d'espèce, le recours à la procédure d'adoption alors que l'enfant a subi entre 3 et 9 années de procédure, le plaçant dans une situation juridique particulièrement insécurisante, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. L'avocate Caroline Mécari, la bien connue, a salué une belle victoire dans un communiqué. C'est une première après que la Cour de cassation, le 4 octobre dernier, a jugé qu'il fallait accepter la transcription totale pour les jumelles Ménesson, a-t-elle ajouté. Après des années de combat, le couple Ménesson avait obtenu, début octobre, de la Cour de cassation, l'entière transcription des actes de naissance de leurs jumelles nées par GPA aux États-Unis il y a 19 ans. Une décision inédite, taillée sur mesure pour ce cas devenu emblématique. La reconnaissance de la paternité de Dominique Ménesson, père biologique, était acquise. Mais jusqu'à présent, la jurisprudence de la Cour de cassation ne permettait pas une telle transcription, s'agissant de Sylvie Ménesson, mère d'intention, qui a désiré et élevé ses enfants, mais n'en a pas accouché. Elle préconisait seulement la solution de l'adoption. Dans ses arrêts du 25 novembre, la Cour d'appel de Rennes a fait prévaloir l'intérêt de l'enfant sur la défense de l'interdit de la GPA. Elle a fait un choix juste que les politiques ont été incapables de faire pendant ces 20 dernières années, a estimé Maître Mécari.
Alors ce qu'on peut dire là-dessus, ce qui est très important, il y a une tribune qui est sortie, qui a été publiée sur Tétu, justement d'un des co-présidents de l'association. Alors le nom, je vais l'écorcher, mais c'est celle qui porte par rapport aux parents LGBT le souci de la GPA et qui fait une très bonne analyse, à savoir que le gouvernement, lors des débats, avait pointé le fait que les enfants pourraient être effectivement couverts par les dispositions qui allaient être votées. En fait, pas du tout. Le gouvernement est resté sur une position de l'adoption par l'autre parent, ce qui n'est pas possible pour un certain nombre de couples. Et donc, en fait, on s'aperçoit que les tribunaux vont beaucoup plus loin et font le boulot que le gouvernement et le législateur auraient dû faire. Et ça, c'est une très belle avancée.
C'est extraordinaire, ça. On imagine mal quand on n'est pas un peu au courant, mais c'est vrai que c'est formidable.
Oui, c'est vraiment un travail de prise de conscience et du travail de l'intérêt de l'enfant. Et qui, pour une fois, n'est pas pris en otage par une pensée ou une morale anti-GPA.
Alors, ensuite, donc, Mohamed, tu vas nous parler un petit peu de ton... De ton parcours, si tu veux bien, maintenant qu'il est terminé, en quelque sorte, parce que je crois qu'il reste que quelques petites choses à surmonter. Alors donc, parle-nous un petit peu de ton parcours et surtout de cette dernière audience qui t'a permis d'être plus libre et plus tranquille, en tout cas.
Bah oui, justement, au fait... Que voulais-je dire au fait que voilà, ça a été un long parcours déjà, parce que je suis parti depuis 2011, c'est ça, et 8 ans depuis mon départ de chez moi. Voilà, c'est en 2019 que j'ai pu enfin dire que voilà, j'ai retrouvé des droits pour moi. Voilà, c'est un soulagement, mais voilà, comme tu le dis, ça reste encore à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et je me concentre maintenant sur ce qui reste à faire aussi.
Quand même. Pour bien comprendre, ça veut dire que tu étais demandeur d'asile et que tu as obtenu ton statut de réfugié.
Effectivement, oui, hein. Mais je viens à peine de l'obtenir, voilà. À l'OFPRA, oui.
À l'OFPRA, c'est-à-dire, pour expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui ne nous suivent pas régulièrement, l'OFPRA c'est quoi en gros, en deux mots?
C'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, voilà, qui s'occupe un peu voilà, de l'étude de la demande d'asile des personnes qui arrivent en France ici pour demander l'asile, justement.
Et voilà. Comme plein d'autres demandeurs d'asile, tu avais préparé ton dossier,
oui,
toute ton histoire avec des tas de...
Oui, effectivement, l'histoire...
D'heures et tout, de préparation,
oui,
de papier
faut,
et tout, avec le groupe droit d'asile, c'est
oui,
ça?
Oui, effectivement, avec alors, justement le groupe droit d'asile de l'ASSO.
Voilà, je voulais en venir là parce que, justement, Arnaud, tu fais partie du fameux groupe demandeurs d'asile.
Oui.
Est-ce que c'est toi qui t'es occupé du dossier de Mohamed?
J'ai accompagné Mohamed en effet dans ses démarches, à constituer le dossier, à réunir les preuves probantes de son histoire. Voilà, donc, et comme pour tous les demandeurs d'asile, c'était compliqué, par chance, donc la procédure se termine bien et se termine à l'OFPRA pour Mohamed, ce qui n'est pas si souvent le cas que ça, hein, donc c'est très bien que ça se termine là, enfin, à l'OFPRA. On est souvent obligé de faire des recours auprès de la CNDA, on va dire la cour d'appel, si on veut. Donc voilà, donc en effet le groupe des droits des étrangers LGBTI+ de Quasar accompagne des personnes comme Mohamed, a constitué donc leur dossier, a rédigé un récit de vie qui doit faire la preuve de ce qu'ils ont vécu. On peut y ajouter des rapports de médecins légistes en détaillant parfois, faut le savoir, c'est quand même, ça doit être extrêmement précis, c'est-à-dire qu'il faut détailler chaque blessure, dire avec quels objets elles ont été commises, et puis réunir des témoignages, des photos, voilà, enfin une multitude de pièces qu'il faut apporter. Ça peut être aussi des documents du pays, voilà.
Toute une vie en somme exposée au début à des gens qu'on ne connaît absolument pas.
Tout à fait. Et puis quand on a la chance de pouvoir apporter ses preuves, puisque souvent lors de la traversée, si on traverse la Méditerranée pour venir jusqu'ici, on perd tous ces documents en règle générale, ou ils nous sont volés, ou ils nous sont subtilisés par les passeurs. Donc en effet, c'est pas une mince affaire que de faire la preuve de ses souffrances, de son vécu auprès de l'OFPRA, et si malheureusement on doit ensuite aller le faire auprès d'un juge à la CNDA. Donc nous on intervient dans ce cadre-là. En plus de la constitution du dossier, évidemment on accompagne dans les démarches, qui est extrêmement complexe, surtout si par la suite vous devez faire un recours auprès de la CNDA, ce qui va impliquer un avocat. Donc il y a une demande d'aide juridictionnelle à faire, il y a le recours à former auprès de la CNDA, avec des délais, je vous disais, qui sont vraiment très courts.
De plus en plus courts, en plus.
Exactement. On a souvent juste 15 jours pour réagir, sachant qu'un demandeur d'asile doit aller chercher son courrier. Parfois, il a juste un jour dans la semaine auprès de l'association auprès de laquelle il est domicilié pour aller retirer son courrier. Donc, vous imaginez qu'on a des dossiers comme ça qui ont rencontré des difficultés.
La chance, en quelque sorte, de Mohamed, c'est qu'il parle français parfaitement. Mais il y en a qui ne parlent pas du tout français. Je crois qu'ils sont déjà venus à l'association. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Alors, ben, dans ce cas-là, alors à l'OFPRA, comme à la CNDA, il y a un interprète. Mais bien évidemment, pour nous, il nous faut trouver un interprète. Donc, toi, Anne, tu l'as fait à plusieurs reprises.
Ben, je ne sais pas, moi. Pour, je pensais surtout Soussou, oui, ou Malinké. Eh ben... ces langues exotiques.
Eh bien, parce qu'on a la chance d'avoir Mohamed avec nous depuis longtemps et fort heureusement pour encore très longtemps maintenant. on a un interprète. En Soussou, en Malinké.
En Malinké, en Poulard.
Voilà, exactement.
Nous sommes très attachés à toi.
Alors là, on parle de langue de Guinée. Hein. Ouais, enfin, ouais. On les retrouve aussi pour certaines au Mali.
Oui, au Mali, oui.
Mais,
je
voilà,
crois qu'on a un interprète à Lyon pour l'arabe.
Alors, on trouve des interprètes, oui. De toute façon, on s'arrange dans tous les cas.
C'est très classe, je trouve.
Après, c'est pas forcément facile non plus pour quelqu'un qui vient nous voir et qui va avoir besoin d'un interprète, même avec nous. Hein. Parce qu'il faut quand même se livrer, il faut raconter ce qu'on a vécu. Mm-hmm. Nous, on a parfois trop peu de temps pour gagner la confiance des gens qui viennent nous demander de l'aide. Mm-hmm. Donc, si en plus, il y a un interprète... Bon, ça complique un peu les choses, mais c'est incontournable hein, dans tous les cas.
Parce que ce qu'Arnaud n'a pas dit, c'est qu'en même temps, il prépare les demandeurs d'asile à l'entretien à l'OFPRA.
Oui,
parce qu'il faut savoir que l'OFPRA, c'est un entretien avec un officier de protection et qu'il faut comprendre les ressorts et les tenants et les aboutissants de cette discussion pour pouvoir faire la démonstration de... Alors, eux réfutent que ça soit le cas, mais il faut bien faire une sorte de preuve qu'on a bien un vécu homosexuel ou de lesbienne dans le pays en question et de pouvoir livrer son histoire.
Les gens forcés de se marier ont énormément de mal avec l'OFPRA parce que vous êtes mariés.
Entre autres.
Ou si vous êtes bisexuel, hein, voilà, par exemple.
C'est tout à fait incompris. Quoi.
Absolument.
Voilà. Mais ça, bon, on développera ça encore plus, mais là, je voulais que tu nous en parles un petit peu parce que c'est vrai qu'on a tous été extrêmement contents quand même.
Et vous constaterez qu'il a retrouvé sa voix depuis ce week-end.
La fête était un peu rude.
C'est
parce qu'il a beaucoup chanté, beaucoup parlé aux gens pour la bonne parole, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors, Stéphane.
Oui, c'est moi.
Stéphane, notre master est justice. Judiciaire à Quasar. Donc, il vient en général pour expliquer ce que c'est que justement le volet judiciaire de Quasar, etc., etc.
Là, souvent, mais tu remarqueras que je viens quand ça va mal. Mais pour une fois, là, ça va bien.
Là, ça va bien. Puis bon, t'es déjà venu à des émissions aussi juste pour dire bon bah le juridique c'est ça voilà, et on fait ça et on accompagne les gens. Mais là, c'est vrai que on a tous lu avec effarement ce ce titre et le début en se disant mais qu'est-ce que c'est, et après ben on a sautillé de joie comme pour Mohamed. En fait on a beaucoup sautillé de joie ces derniers temps. Alors c'est un extrait de Ouest France, donc du courrier de l'Ouest. Je vais vous lire le titre et simplement le chapeau, c'est-à-dire les trois premières lignes de l'article. Et ensuite, eh bien, Stéphane va nous expliquer les mots et comment on en est arrivé à faire ça.
Oui.
L'association Quasar donne une leçon de droit au parquet. C'est satisfaisant comme phrase. Une affaire d'agression homophobe a été l'occasion d'une amère plaidoirie de l'association Quasar qui défend les minorités sexuelles vendredi 15 novembre devant le tribunal de police d'Angers. Alors là, j'avoue, je manque un petit peu. Alors le tribunal de police, qu'est-ce ? Le parquet. Et comment peut-on donner une leçon de droit à quelque chose qui fait partie d'un tribunal?
Alors en fait,
c'est toi qui as fait ça, je suis sûr.
Alors en réalité, pour la gestion des délits et des infractions dans notre système judiciaire, il y a d'abord le tribunal de police pour tout ce qui va être contraventionnel, c'est-à-dire que c'est un niveau d'infraction qui n'est pas considéré comme un délit. Je prends des exemples qui s'attachent à notre thématique, l'homophobie ou la lesbophobie ou transphobie. À partir du moment où vous avez des injures, de la diffamation qui est ou qui sont proférées de façon non publique. Alors, comment est-ce qu'on développe le public et le non public? Bien, le public, ça va être tout ce qui va être sur les réseaux sociaux. Ça va être le fait que dans un journal, vous ayez des paroles qui soient homophobes. En tout cas, que un maximum de personnes puissent en avoir l'écho. Lorsque vous recevez un coup de fil et que vous enregistrez la conversation de la personne que vous avez à l'autre bout du fil et qui vous insulte, c'est considéré comme étant non public puisque ça se joue entre vous et elle. Et bien dans notre cas à nous, c'était l'auteur d'injures particulièrement dégueulasses à notre rencontre qui nous avait appelé sur le répondeur de l'association et qui avait laissé ses messages enregistrés pour le coup. Donc nous avions déposé plainte. Pour mémoire, c'était exactement à la période où nous avons eu, enfin très peu de temps avant, où nous avons eu les tags sur la façade du local que nous occupions, 32 avenue de Chanzy, avec à mort les PD et tout. Donc c'était un contexte, sachant qu'avant ces insultes sur le répondeur, nous avions eu le tag sur le trottoir, c'est-à-dire que c'était trois plaintes.
Non à l'homophobie, tout ça.
Voilà. En réalité, on avait déposé plainte pour ces trois faits-là et on n'avait aucune nouvelle. Et c'est en 2019, donc cette année, un petit peu courant d'avril, où malgré les courriers au parquet, alors j'explique ce qu'est le parquet, en fait c'est ce qu'on appelle le ministère public. C'est le représentant de la ministre de la Justice à Angers, qui s'appelle le procureur général. En l'occurrence, jusqu'à il y a quelques mois encore, c'était Monsieur Gambert. Et qui a pour fonction, eh bien, de recevoir toutes les plaintes et, au regard d'une politique pénale, de pouvoir diligenter des enquêtes et surtout éventuellement poursuivre.
Mais c'est lui qui est habillé en rouge et qui dit c'est vous qui l'avez fait, ne mentez pas. Alors, dans les feuilletons.
Dans certains, effectivement, tribunaux, c'est potentiellement le procureur qui peut être présent. Souvent, ce sont ce qu'on appelle les parquetiers, c'est-à-dire les gens qui sont sous ses ordres, qui sont à la place du ministère public, c'est-à-dire à Angers, complètement à gauche du tribunal quand on est dans le public, et qui prennent la parole pour ce qu'on appelle les réquisitions, c'est-à-dire avoir un réquisitoire qui est une demande de peine, que le tribunal suit ou pas. Après, je vous rappelle que si c'est un délit, c'est le tribunal correctionnel, et si c'est un crime, c'est la cour d'assises. C'est la cour d'assises qui siège aussi à Angers. Et puis, on a au-dessus son supérieur hiérarchique, qui en l'occurrence est une femme, c'est Madame Brigitte Lamy, qui elle est procureure générale, donc on va dire que c'est son patron. En fait, dans la hiérarchie, c'est simple, vous avez le procureur de la République à Angers, le poste est vacant pour l'instant, puisque celui qui était nommé au JO il y a quelques mois n'est pas encore disponible.
Le journal officiel.
Voilà, le JO, c'est le journal officiel. C'est un procureur qui nous viendra de Corse, mais il n'a pas encore de remplaçant, donc il ne peut pas être détaché, et donc pour l'instant, il y a une vacance. Mais le parquet tourne toujours, enfin le ministère public travaille. Au-dessus de lui, vous avez Madame Lamy, qui est la procureure générale, qui réfère directement à la ministre de la Justice.
Et elle est où, elle?
Elle est également à Angers. Également Angers, puisque Angers a la particularité d'être une cour d'appel, c'est-à-dire que pour la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire et j'en oublie, c'est une cour d'appel, c'est-à-dire que c'est là où se jugent les affaires quand elles ont été jugées en première instance. Elles vont donc en appel et ça se passe aussi
d'accord.
À Angers.
Je préfère dans que notre... tu précises parce que dans notre cas, on a tout ça en fait.
On a tout ça finalement. À la maison, ouais. Donc c'est pratique pour nous. Et donc, dans notre affaire, nous n'avions aucune nouvelle. Donc, on a commencé à taper du poing sur la table et on est tombé sur du personnel des greffes au bureau d'ordre qui ont été extrêmement efficaces, qui nous ont dit que normalement, on aurait dû recevoir et on n'avait effectivement rien reçu. Donc, on a fini par avoir ce que nous avions demandé, c'est-à-dire les procédures de nos trois plaintes, ce qui, en tant que victime, est tout à fait possible. Et en dépiautant cette procédure, parce que c'est quand même un paquet de feuilles assez important, je me suis aperçu que l'affaire avait été traitée par le parquet de la manière suivante. L'auteur des insultes avait été identifié 10 jours après la commission des faits, donc très peu de temps après notre plainte, qu'il avait été convoqué, qu'un officier de police judiciaire avait pris son audition, qu'il avait parfaitement reconnu les faits, en expliquant qu'il était dans une passe difficile familiale, que ça touchait sa fille qui avait un demi-frère, puisque son ex-femme était mariée avec un autre homme, que cet homme refusait que les deux enfants, les demi-sœurs et demi-frères, se rencontrent et se connaissent, qu'il le vivait très mal. Mais comme cet homme était prétendument, selon lui, homosexuel, il avait une colère envers les homosexuels, et il venait juste de voir un reportage à la télévision sur Quasar expliquant que nous nous battions pour les homosexuels. Il avait trouvé notre numéro de téléphone dans l'annuaire et il nous a appelé pour nous insulter copieusement. Donc en fait, on était des boucs émissaires.
D'accord, c'est plus belle la vie.
Face à ça, oui, mais version plus un peu ténèbres. Oui, moche. Face à ça, le parquet a décidé de faire un rappel à la loi. C'est-à-dire de ne pas le poursuivre, mais simplement lui rappeler que ce qu'il avait fait, c'était pas bien.
Ah oui, on lui donne une tape sur les doigts, quoi.
Voilà.
Une tape sur la main, gentille.
Sans prendre la précaution de faire un rappel à la loi devant un délégué du procureur, où nous aurions pu être présents et discuter avec lui. Ça aurait peut-être permis, ou au moins, de mettre les choses au clair. Et de cela, pas question. En gros, on nous disait, ça ne vous regarde pas. Mais ça nous concernait quand même. Donc, 6 mois après, le parquet, ayant vu qu'il n'y avait pas de récidive de la part de l'intéressé, a décrété un classement sans suite. Et donc, fort de ça, je me suis intéressé au rappel à la loi. Et en consultant le rappel à la loi, je me suis aperçu que les articles qui justifiaient le rappel à la loi étaient des articles qui étaient à l'époque abrogés depuis bientôt 1 an. Donc, c'est-à-dire que nous avions une décision qui était, en mode juridique, qui était sans base légale. C'est-à-dire que vous rappelez à la loi un individu avec une loi
en fait
qui est abrogée.
D'accord.
C'est quand même beau.
Bah, c'est très, très... C'est bien.
Voilà. Donc, face à ça...
Mais face à eux, ils avaient Stéphane.
Nous avions toujours la possibilité, parce que le délai de prescription n'était pas atteint, nous n'avions plus qu'une seule solution.
C'est combien le délai de prescription ?
Alors, le délai de prescription en matière publique et non publique de tout ce qui est homophobie, c'est 1 an partout maintenant.
D'accord. Alors, si
avant,
je me
c'était
fais...
que 3 mois pour le non public, ouais, et 1 an pour
donc,
le public.
Si je me fais insulter dans la rue, que je sois ou pas homo,
oui.
Aujourd'hui, là, enfin ce soir,
oui.
Donc j'ai jusqu'au 5 décembre 2020,
oui,
pour porter plainte.
Oui.
C'est ça, hein ?
Exactement. Ça va. En fait, le délai de prescription court à partir du lendemain, jusqu'à la date anniversaire.
D'accord.
Et on interrompt ce délai-là pour remettre le compteur à zéro quand il y a des actes de procédure. Une audition, un acte, ce qu'on appelle un soi transmis du parquet, qui est une demande aux enquêteurs. Tout ça, ce sont des actes qui remettent le compteur à zéro. Nous étions parfaitement dans les temps. Et nous n'avions plus qu'une seule solution, c'était de faire une citation directe. C'est extrêmement pernicieux parce que ça veut dire que la victime doit prendre avocat. Nous, en l'occurrence, on n'a pas pris avocat puisque c'est moi qui ai fait les conclusions. Donc ça nous fait ça d'économiser. Et en citant les bons articles, en n'étant pas trop gourde.
Oui, puisqu'ils n'étaient pas abrogés depuis voilà. 1 an.
Et on dit au tribunal de police, bah voilà, donnez-nous une date parce qu'on veut faire citer cette personne devant votre tribunal. On nous avait fixé la date du 20 septembre. La date du 20 septembre a été un temps d'audience qui a permis de fixer une date d'audience pour le jugement, mais en même temps une consignation. Parce que c'est ça qui est fallacieux dans l'histoire, c'est que comme c'est vous, la victime, qui saisissez le tribunal, il se prémunit d'une saisine qui serait absolument pas dans les clous juridiques ou qui serait abusive.
Attends,
en
il
demandant
se saisit d'une saisine, je t'avoue.
Saisine, c'est saisir, ça veut dire saisir le tribunal.
D'accord.
Tout simplement.
Appeler le tribunal, interpeller. Enfin,
interpeller le tribunal, d'accord. Écrire, faire des conclusions et demander la comparution de l'auteur. Et donc, pour se prémunir de quelque chose qui serait anormalement demandé, eh bien, il demande une somme d'argent, ce qu'on appelle une consignation, qui est rendue lorsque le jugement est donné en faveur du demandeur, et ce qu'on récupérera, nous, plus tard, en l'occurrence, c'était 400 euros.
D'accord. Mais vous ne l'aviez jamais rencontré, ce monsieur, en fait ?
Jamais.
En fait, jusque-là, là.
Jamais.
D'accord.
Et donc il est venu le 20, il pensait que ça allait être jugé. Bon, il y a eu une date qui a été fixée pour le 15 novembre. Et le 15 novembre, par contre, il était bien là, moi aussi. Et donc là, ben, j'ai plaidé pour l'association. Et quand le journaliste dit qu'on a une plaidoirie amère, ça veut dire qu'effectivement, j'ai insisté en disant tout le parcours que je viens de vous expliquer, en disant que nous n'avions jamais été, de la part du parquet, informés de quoi que ce soit. Nous devrions, selon le code de procédure pénale, recevoir tous les avis de classement sans suite, ce qui n'a jamais été le cas pour cette affaire-là. Et que, en plus, nous contestions la politique pénale du parquet, donc du procureur et du ministère public en l'occurrence, parce que selon nous, ça ne peut pas donner lieu un rappel à la loi, quand on est dans le cadre de l'augmentation des cas d'homophobie, quand on est dans le cadre d'un plan gouvernemental rappelé par Castaner et Schiappa sur l'importance d'apporter une réponse à l'ensemble de ces actes-là. Et donc, de demander, et en plus en pointant, l'erreur monumentale du parquet, ce qui, en insistant bien, je vous rassure, ce qui a donné lieu quand même ce moment assez extraordinaire et ubuesque, où la procureure présente ben, n'avait pas d'autre choix que de défendre les choix de ses collègues et de dire qu'à Angers, effectivement, comme le casier judiciaire de l'auteur était vierge, on avait pour habitude de faire un rappel à la loi et qu'un rappel à la loi plus un classement sans suite ne voulait pas dire que justice n'était pas rendue. Étant donné que moi j'avais bien précisé que pour nous c'était pas le cas et que nous demandions effectivement à ce qu'il soit condamné et que nous touchions une somme. Enfin, je rappelle quand même que depuis la loi de 2017, cette infraction contraventionnelle, puisque encore une fois c'est du tribunal de police, est passée de la troisième catégorie à la cinquième, c'est-à-dire la plus élevée, jusqu'à 1 500 € d'amende.
D'accord.
Voilà.
Alors donc le temps a été augmenté pour porter plainte, ça y a déjà quelques années.
C'est ça.
Et maintenant en plus,
l'aggravation de la peine a été constituée à ce moment-là en 2017.
C'est juste en dessous du délit, ça.
Oui.
Au-delà, c'est du délit.
Au-delà, c'est du délit, effectivement. Et donc là, ben, on a été reconnu. Et depuis le début de la semaine, je sais qu'aucun appel n'a été interjeté ni par le condamné, ni par le parquet. Donc ça veut dire que la condamnation est définitive.
D'accord, donc il n'y a pas fait appel, comme on dit, dans les feuilletons.
Du tout.
Donc c'est ça. Donc, en fait... c'est quand est-ce qu'on sait vraiment, là, il a une chance de faire appel, etc. Nanana.
Ben, il y a un délai.
Il a combien de temps pour ça?
Il a 10 jours, puisqu'il était présent à l'audience, il a 10 jours.
D'accord.
Lorsque c'est une personne...
10 jours ouvrés, je veux dire.
Globalement, c'est 10 jours. Hein,
10 c'est... jours. Donc c'est passé, là.
Ah, c'est tout à fait passé, donc c'est définitif. Et quand la personne, l'auteur n'est pas à l'audience, n'est représenté que par un avocat, les 10 jours courent à partir de ce qu'on appelle la notification de la grosse. La grosse n'est pas une insulte, c'est le jugement original qui permet de le signifier, c'est-à-dire par voie d'huissier, de l'envoyer au condamné en lui disant « Maintenant, vous êtes informé et les délais courent. »
D'accord. Donc là, il doit payer une amende à l'État et des sous à Quasar ?
Exact. Il a été condamné à 400 €, dont 300 avec sursis, donc 300 qui ne lui sont pas demandés. Donc il a 100 € à payer.
Mais s'il recommence, il les paiera. C'est ça l'idée du sursis,
exact.
C'est ça hein ?
Et pour Quasar, c'est 300 €.
D'accord.
Voilà.
Donc l'État va avoir 100 € et Quasar voilà. 300.
Et nous 300.
Et d'accord. Tu juges que c'est une peine à la valeur du dommage pour nous ?
Pour ce qui concerne Quasar, je crois que la victoire, elle est surtout sur le fait d'avoir véritablement pointé le fait que le parquet n'avait pas
absolument,
bien travaillé.
Absolument, ça déjà...
Ça, symboliquement, c'est une victoire. Pour ce qui concerne l'homme en question, il faut se garder d'avoir un triomphalisme et une vengeance financière à l'occurrence de l'affaire.
Non, mais pour l'effet dissuasif, en fait.
Oui, oui. Et 300 euros pour le profil de la personne concernée, c'est une punition vraiment importante.
D'accord.
D'accord. Et alors, une dernière question de ma part, si vous en avez, évidemment. Même toi, public, tu peux poser une question. là, c'est nous qui disons on veut 300 euros ou c'est oui, le parquet demande, qui dit vous avez le droit de demander tant à tant.
Dans les conclusions et dans la plaidoirie, c'est-à-dire dans la prise de parole pendant l'audience, qui est très réglementée, il y a un ordre de passage. En conclusion, on a la fameuse formule de plaise au tribunal d'entrée en voie de condamnation et l'association demande, en l'occurrence on demandait 800 euros de dommages et intérêts et on demandait 300 et quelques d'article 475-4, c'est-à-dire de dédommagement des frais encourus. On n'a pas eu la dernière partie, mais tout ça fait que en gros il nous reste à peu près 30 euros de frais de l'ensemble de la procédure.
Et ah, il y a 800 et 300 en fait alors.
Oui. Nous demandons 800 et le tribunal accorde 300.
D'accord.
Mais c'est le faut faire très attention à la somme qu'on demande, parce que si on va en appel, ça nous est déjà arrivé dans une autre affaire, c'était en 2010, c'était la première fois qu'on se constituait partie civile. L'avocate en face de l'auteur des faits d'agression, enfin c'était une sale affaire, avait tourné la tête au tribunal correctionnel qui nous avait déclaré non recevable dans notre constitution de partie civile. Nous avions fait appel avec le bon article et la cour d'appel, pour sanctionner l'auteur et aussi l'avocate, nous avait donné le maximum de la somme que nous demandions, parce qu'un tribunal ne peut pas aller au-delà de la somme demandée par la partie plaignante. Voilà. Et d'accord, ça, c'est très important de le savoir.
Okay, bon, bah,
je ferme juste la parenthèse, oui, je l'avais déjà dit, mais je le redis. Depuis, on travaille très très bien avec cette avocate. Elle a compris qu'il ne fallait pas venir nous chatouiller.
J'aime beaucoup le « on » parce que c'est quand même principalement toi.
Mais c'est au nom de Quasar, je veux dire. C'est,
oui, voilà. Bien sûr.
Mais on peut dire que tu es exceptionnel quand même. Merci,
non, non, non. Stéphane. Si, disons-le, tu es exceptionnel. Non, non, non. Il est exceptionnel.
Bah, oui, je suis juste un citoyen qui s'intéresse à ces questions-là et qui a horreur de l'injustice. Voilà. Je suis euro-masqué.
Merci beaucoup, Stéphane. Voilà.
Cavalier qui surgit hors de la nuit, donc.
Oui. Mais j'ai pas de torpedo, hein, ça. Mais,
merci. Merci beaucoup, Stéphane, d'être encore une fois venu. Alors maintenant, attaquons la télé et tout ça, si j'ai bien compris, Arnaud, mais c'est Mohamed qui commence par les questions. Vas-y.
Arnaud, nous sommes début décembre. Nos soirées se réfléchissent. Nos week-ends sont pluvieux, la nuit tombe vite, Noël approche, c'est la grande période des soirées télé. C'est donc la télé que tu vas, c'est de la télé que tu vas nous parler aujourd'hui, maintenant. Mais franchement, Arnaud, parler de la télé à quelques jours de 2020, tu ne trouves pas ça un peu has-been ?
Ben, très juste, Mohamed. Hein. Mais pour être précis, je ne vais pas parler de nos vieilles chaînes historiques. Hein. Déjà en 2005, la télé de papa faisait sa révolution avec la TNT, sa multitude de chaînes de télévision. Je craignais que toutes ces chaînes segmentent notre société, que l'identité de ces marques, pardon, de ces chaînes, se développe en ciblant un public à capter, une pour les gens de droite, une pour ceux de gauche, une pour les cathos, une pour les LGBT, une pour les ados, une pour les femmes, etc.
Une pour ceux qui aiment les hérissons.
Voilà. Bref, que chacun vivrait dans son monde et ne serait plus informé de ce que les autres vivent, que les soirées télé réunissant toute la famille ce serait bientôt terminé, que la petite fenêtre sur le monde ne disparaisse au profit de chaînes communautaires avec le risque d'exposer des milliers de téléspectateurs à un discours sans contradiction, de faire croire qu'il n'y a qu'une vérité et convaincre que la haine de l'autre est un mode de défense bien légitime. Je ne me suis pas complètement trompé, mais j'ai le sentiment que les programmes sont tellement pauvres que ça ne marche pas, ça ne prend pas et c'est tant mieux. Puis les chaînes de streaming ont été annoncées, des multinationales disposant de fonds illimités pour créer et diffuser des programmes conventionnels, formatés de telle manière qu'un Japonais, un Européen, un Américain puissent s'y retrouver. Je craignais que ce soit la fin de l'exception culturelle, la fin du cinéma français, et qu'il ne resterait que des productions américaines devenues mondiales, uniques, hégémoniques. Là encore, je ne me suis pas complètement trompé, quoique, las de regarder nos vieilles chaînes fatiguées, ringardes, et les chaînes de la TNT sans inspiration, souvent sans talent et au fort pouvoir abêtissant, j'ai cédé et pris un abonnement à Netflix. Netflix, tu peux me...
Bah oui, mais tu me fasses des signes pour que je monte les potards. Et voilà. On est dans la vie ancienne ici.
En fait, j'ai raté un effet, c'est que on va lui faire de la pub, mais je voulais pas donner son nom, je voulais juste faire ça. Et là, j'ai un canal qui me propose des séries souvent audacieuses, parfois exceptionnelles et des films inspirés, quand le cinéma popcorn ne vous propose que des suites, hein, comme cette année.
Spider-Man Far From Home, qui est le deuxième volet de la troisième série de Spider-Man que nous propose le cinéma depuis 15 ans, ou encore Avengers Endgame, Captain Marvel, X-Men, Dark Phoenix, Glass, qui réunit les personnages de Incassable et Split, Ralph 2, Dragon 3, Toy Story 4, Le Roi Lion et Dumbo, que Disney nous ressort en images de synthèse, John Wick, troisième volet, Godzilla 2, Creed 2, enfin, j'arrête là. Malheureusement.
On a échappé à Rambo 27 quand même.
Voilà, exactement. Enfin, tant ça va venir. Hein. Enfin, heureusement donc, j'ai un abonnement à... J'ai pu trouver des films forts, novateurs, qui souvent ne ressemblent à rien à ce que j'ai pu voir auparavant, et contrairement à ce que je pensais, qui s'ouvrent à d'autres cultures. Je conseille Okja, Beast of No Nation, Le Garçon qui dompta le vent, Roma, D'abord ils ont tué mon père, Aucun homme ni dieu, Annihilation, Bird Box, ou encore La balade de Buster Scruggs des frères Coen.
Et Netflix, c'est payant, mais ça décodère. Alors Carnot, c'est gratuit. Mais pour, il faut un décodeur pour comprendre son anglais.
Il ne faut pas dire, le mot faux, que tu fasses doudoum, s'il te plaît, moi-même.
Mais pourquoi faire la publicité de Diego?
Eh bien, parce que cette chaîne ne crée pas de communautarisme. Elle fait de l'inclusif, et c'est drôlement bien. Culturellement, je peux voir des séries et des films indie, anglais, suédois, américains, japonais, et même des séries françaises comme la catastrophique Marseille, ou la légèrement mieux Family Business, et de bien plus remarquables, très éloignées des productions TF1 comme Marianne ou Mortel. Elle me met aussi en avant des films que la majorité des spectateurs de... n'irait pas voir au cinéma, mais qu'un simple clic sans supplément d'abonnement permet de découvrir. Elle finance même des films que le cinéma en salle ne veut plus produire, comme le dernier Scorsese, The Irishman, avec De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et Harvey Keitel.
Ok Arnaud, mais pourquoi en parler dans Quasar on Air? Quel rapport avec les LGBTI+?
Eh bien parce que ces programmes sont la plupart du temps inclusifs. La grande qualité de... c'est de réaliser mon rêve d'enfant. Inclure des personnages LGBT dans ces programmes. Tous ces programmes. Et il n'y a pas que les LGBT qui sont représentés. Tout le monde a sa place, même les Asiatiques et les Noirs, et parfois même des Asiates LGBT et des Noirs LGBT. Et les LGBT n'ont pas les plus mauvais rôles, comme on en a trop l'habitude. Non, le LGBT n'est pas celui qui meurt en premier. Ce n'est pas non plus l'anti-héros, le fourbe, le traître, la caricature. Non, c'est un personnage comme un autre, avec ses joies, ses peines, ses amours, ses déceptions, ses doutes, ses troubles et aussi ses démons. Il est parmi vous, il vit avec vous, avec les autres, il n'est pas replié sur une communauté, il n'œuvre pas en secret pour le fameux lobby. Non, il existe tel que nous existons, avec nos différences et nos différentes représentations.
Vraiment, on trouve des personnages LGBT qui peuvent nous ressembler dans les séries sur...
Oui Mohamed, on trouve une multitude de séries, de science-fiction, de comédies, de policiers très inclusives, des séries que l'on peut regarder avec ses frères, ses sœurs, ses parents, des séries où tout le monde s'y retrouve.
Oh oh, mais c'est le bonheur.
Mais exactement. Je vais en citer quelques-unes. Sex Education, série anglaise qui suit un adolescent sexuellement maladroit, vivant avec sa mère, thérapeute sexuelle, son meilleur ami, Eric, un jeune homme noir et gay. Série saluée par les critiques pour les performances des comédiens, mais aussi pour avoir abordé des sujets sensibles et sa représentation diversifiée de la communauté LGBT. La chaîne a annoncé que la série avait été regardée plus de 40 millions de fois dans le monde au cours du premier mois suivant sa sortie, devenant ainsi l'une des émissions les plus réussies de l'histoire de ce network. C'est un peu léger, mais c'est très culotté et souvent déculotté, divertissant et très amusant.
J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle.
Oh, j'aurais aimé que ma mère soit un gourou du sexe.
Et si pour commencer, vous me racontiez votre plus ancien souvenir concernant votre scrotum?
Non, crois-moi, j'aurais détesté.
S'agit d'une nouvelle frontière, mon pote sexuellement refoulé. C'est enfin notre chance de remonter la chaîne alimentaire sociale. M'inquiète pour toi, mec. Tout le monde pense à s'envoyer en l'air. Ou ils projettent de le faire. Ou ils le font pour de bon.
Les élèves de ce lycée ont besoin de toi, Otis. Et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial. Et toi, de la thérapie.
La thérapie?
La thérapie sexuelle. T'as un don.
Ah, sexologue, non mais t'imagines, c'est un super plan. Tu pourrais être populaire.
Il se pourrait bien que je craque légèrement sur Maeve. Je suis obsédé par la branlette.
Mes poils pubiens sont déchaînés.
J'aimerais être un mec normal. Avec un père normal. Avec une queue normale.
Partout aux deux meilleures années de notre existence.
Impossible de donner une liste exhaustive des séries qui incluent des personnages LGBT diffusés sur cette chaîne, mais en voici quelques-unes quand même. Il y a la célèbre 13 Reasons Why, que certains accusent de pousser les jeunes au suicide et qui compte des adolescents homosexuels bien vivants. Riverdale, autre série pour ados qui montre une romance gay dans sa première saison, et une idylle entre deux femmes dans la saison 2. L'une aide l'autre à faire sa bisexualité et la sauve ensuite d'un camp de thérapie de conversion. Atypical, la vie de Sam Gardner, un jeune lycéen atteint d'un trouble autistique. La série met rapidement en scène une idylle entre deux personnages féminins. Jessica Jones ou les aventures d'une bad girl alcoolique, super-héros Marvel au féminin. On y retrouve Carrie Ann Moss, rendue célèbre par Matrix, qui joue le rôle d'une avocate lesbienne alliée de Jessica Jones. Elite, une série espagnole encore pour ados, avec un joli couple de lycéens homo, Omar, jeune musulman, amoureux d'Ander. Et il y a aussi un méchant bisexuel. Sabrina, gentille comédie SF avec un démoniste pansexuel. Dear White People, ou l'histoire d'étudiants noirs, dont celle d'Orton qui compose avec sa sexualité et a souvent du mal à être un homme noir dans la communauté queer, ainsi qu'un homme queer dans la communauté noire. La plus célèbre série de cette compagnie, Stranger Things, n'avait pas de personnage LGBT jusqu'à cette saison 3, qui était peut-être la saison de trop. Mindhunter, thriller exceptionnel, petit bijou télévisuel qui traite des débuts du profilage criminel au sein du FBI, avec deux agents, Holden et Bill, aidés par une psychologue lesbienne, Wendy. La saison 2 dépeint notamment les difficultés de Wendy à vivre son homosexualité dans les années 70, dans cet univers très masculin. Umbrella Academy, ou l'histoire de 7 enfants adoptés par un milliardaire pour sauver le monde avec la célèbre et militante Ellen Page. Je peux citer aussi What If, avec Renée Zellweger. Ozark, le Breaking Bad de...
C'est la petite sœur du gamin de... C'est la petite sœur du gamin de E.T.
Oui, c'est vrai, oui. Lucifer, série policière et fantastique, la célèbre Casa del Papel, saison 1, avec son couple de braqueurs homo, et même Comment élever un super-héros, qui est une série de science-fiction pour les plus jeunes. Sortie il y a un mois, Daybreak, série apocalyptique, alors encore pour ados, avec un jeune samouraï black gay totalement assumé et amoureux du méchant. Wesley et Turbo, les deux gays de cette série, nous font vraiment oublier qu'habituellement les gays à la télé sont des victimes souvent très fragiles. Et rien n'arrête l'Enterprise de streaming en matière de représentation. Nous sommes aussi visibles dans Star Trek Discovery. Le lieutenant Paul Stamet et le docteur Hub Culber forment le premier couple gay de la franchise à voler sur l'USS Discovery et nous montrent le premier baiser gay de l'univers Star Trek. Et comme c'est ma chronique, j'ai gardé ma série pour la fin, The OA, une série originale de 2016 qui raconte comment une jeune fille aveugle réapparaît soudainement après avoir disparu pendant 7 ans. À son retour, Prairie Johnson, c'est son nom, a retrouvé la vue. Elle se définit comme la O, l'ange original ou The OA. Elle s'entoure d'un groupe de jeunes personnes et parmi ces personnes, eh bien, il y a un jeune garçon transgenre et un jeune gay qui peinent à s'assumer. Cette série est une création très originale que l'on déteste, que certains peuvent trouver ridicule ou que l'on adore et que les mouvements inspirés par les chorégraphies de Pina Bausch transportent comme son héroïne. Cela ne ressemble en rien à ce que vous avez vu avant. Pour moi, c'est une merveille. J'aime l'originalité, la folie, l'onirisme, les acteurs, ces épisodes d'1h10 et ceux de 30 minutes, le premier générique qui part 15 minutes avant la fin de l'épisode, sa saison 1, la seule qui compte, et sa musique.
Nous vivions dans une enclave secrète, aux abords de Moscou, avec beaucoup d'autres nouveaux riches. Même quand il y avait plus de 2 mètres de neige, on distinguait d'immenses maisons derrière de hautes grilles, perdues dans tout ce blanc. Tu m'as demandé comment j'avais recouvré la vue. Le plus intéressant, c'est que je vous raconte comment je l'ai perdue. Je ne suis pas née aveugle. Je me souviens des dômes colorés de la cathédrale Saint-Basile, des eaux grises de la Moscova.
Vous êtes sur l'antenne de Radio G 101.5. C'est quoi ça, Onzière ? Avec vous jusqu'à 21h. Ce soir, Arnaud Fer, l'apologie d'une multinationale de VOD, et s'en explique. Tu nous as parlé des programmes exclusifs, mais est-ce qu'il y a aussi des séries et des films vraiment LGBTQ+, dans ce catalogue vidéo ?
Bien évidemment, en plus de représenter les LGBTIQ dans presque tous ses programmes, la célèbre multinationale rediffuse aussi des séries LGBTIQ comme Orange in the New Black, Glee, Orphan Black, les chroniques de San Francisco et propose même de nouvelles chroniques de San Francisco et des séries moins connues qui méritent le coup d'œil. Champion, ou l'arrivée d'un jeune adolescent gay à la personnalité étincelante et excentrique dans le quotidien de deux frères trentenaires qui tentent tant bien que mal de s'adapter à cette nouvelle vie de famille. Et surtout Please Like Me qui met en scène la vie affective de Josh, jeune australien, simple et plutôt moche, qui, après avoir été largué par sa copine, réalise qu'il est gay. La plus célèbre série, service, pardon, le plus célèbre service de VOD propose aussi des programmes originaux LGBTQ que seule la chaîne HBO nous avait habitué à voir depuis Six Feet Under et Queer as Folk. Je citais à l'instant les nouvelles chroniques de San Francisco, mais aussi Sense8, et en matière de représentation, Sense8 fait fort. Tous les personnages, gays, bisexuels, trans, ne font que répandre l'amour tout en soulignant certaines des nombreuses difficultés auxquelles doivent faire face les LGBT partout dans le monde. Spécial, ou les aventures de Ryan, un jeune homme gay atteint d'une paralysie cérébrale, Grace and Frankie, ou le coming out tardif avec Jane Fonda et Martin Sheen, excusez-moi vraiment pour la prononciation, tout le monde rigole, mais c'est bien mérité.
De l'anglais. Martin
Sheen. Versace, une mini-série sur la vie et l'assassinat du célèbre couturier. The Good Place, ou la vie après la mort d'Eleonore, personnage bisexuel dans une comédie hilarante. The Politician, où la vie, une série déjantée, pardon, féroce et drôle avec Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Bette Midler, une série qui donne la parole aux gays et aux trans, des gays qui se verraient bien président des États-Unis.
C'est moi pour ça que je veux être président. Mesdames et messieurs, voici votre prochaine vice-présidente, Infinity Jackson. Elle a déjà un taux d'approbation de 80.
Et un compte de fans sur Instagram.
Apparemment, il y a une cassette sur laquelle on te voit proférer une insulte envers les gays. Tu as une idée de ce à quoi je fais référence?
Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est?
Vous, fermez-la, je suis pas d'humeur pour vos conneries. Qu'est-ce que tu dis dans la vidéo? Putain de merde! Ça y est, c'est terminé! I want that trophy. Vous savez, je vais devenir président des États-Unis. J'énonce simplement un fait, je deviendrai président un jour. Je te préviens, déconne pas avec mon rêve.
Ton ambition me fait très peur.
I want that trophy.
Ce lycée mérite mieux que toi.
Si tu veux le battre, il faut que tu acceptes ta froideur intérieure et que tu l'assumes pleinement.
I want that trophy.
Va te faire voir.
On déteste Peyton bien plus que toi.
Vous croyez que je devrais le tuer?
Quoi? Oui, c'est ce que je crois.
Je suis pas sûr d'être quelqu'un de bien. T'as pas besoin d'être quelqu'un de bien. Tant que tu fais le bien autour de toi.
Vas-y, parle-moi de ce qui ferait une différence pour toi. Qu'est-ce qui t'intéresse?
Je n'arrive pas à y croire.
Que je suis une connasse avec un cœur de pierre et de la glace dans les veines?
I want that trophy.
Cette jeune fille voudrait voter.
Elle ne peut pas voter sans sa carte d'étudiante. Sinon, des élèves d'autres lycées viendraient pour voter en toute illégalité.
C'est ridicule. Il y a des chances que Peyton soit homosexuel.
Astrid est une furie, bon.
Je vais aller dîner dans le restaurant de Ratatouille où c'est le rat qui cuisine.
C'est un dessin animé, réfléchis un peu, Infinity. Il n'y a pas vraiment de rat qui cuisine dans les restaurants.
I want that trophy.
Faut le faire assassiner. C'est trop?
Je suis prêt à tout pour gagner.
Je vous appelle pour dénoncer un crime. C'est toi qui as fait ça.
Dur de te voir tout le temps ici.
Vous êtes sur Radio G 5.5, c'est Quasar on the Air. Et Arnaud nous explique comment occuper nos longues soirées d'hiver. En soutenant, en s'abonnant, pardon à...
Eh bien en s'abonnant à, on l'a dit tout à l'heure, on va pas le répéter, mais en effet c'est le programme très à la mode en ce moment. Voilà, donc... Et oui, je n'en ai pas fini avec le catalogue de ce très célèbre canal de VOD aujourd'hui. Si vous êtes nostalgique, vous pouvez revoir Teen Wolf ou Skins dans un tout autre genre. Ou comme Mohamed et moi, les 4 saisons de Spartacus, parce que on aime bien les gladiateurs musclés. Et il n'y a pas que des séries inclusives ou carrément LGBTIQ. Il y a aussi de nombreux films comme Dear Ex, film taïwanais qui raconte l'histoire d'un ado au milieu d'une querelle amère entre sa mère et un homme libéré, à la fois amoureux et bénéficiaire de l'assurance vie de son père récemment décédé. Un film maintes fois récompensé dans de nombreux festivals. Il y a aussi L'Inconnu du Lac, prix de la mise en scène à Cannes. King Cobra, qui raconte les débuts de la pornostar Brent Corrigan, qui commença à tourner des films X avant même d'être majeur et fut mêlé à une histoire de meurtre. Je vais citer aussi aussi, mais très rapidement, I Am Michael avec James Franco et Zachary Quinto, Carol avec Kate Blanchett, A Single Man avec Julianne Moore, Nicolas Hoult et Colin Firth, Margarita with a Straw, Holding the Man, Below Air Mousse, Mort à Buenos Aires, Anson Device, Anna et Vittoria, The Phil, Alex Strangelove, Elisa et Marcella. Elisa et Marcella.
Je me demande sérieusement pourquoi tu regardes cette série de cette télévision-là, parce qu'en fait, c'est que des titres, tu peux pas les dire.
Mais vous les retrouvez sur son catalogue. Et Elisa et Marcella s'est inspirée d'une histoire vraie. En 1901, une Galicienne nommée Elisa Sanchez Loriga se fait passer pour un homme afin d'épouser celle qu'elle aime, Marcella Gracia Ibia.
T'as plus qu'à monter le son.
Mais non, alors là, il n'y a plus de son, ce n'est pas grave.
La fois où j'ai senti ton odeur. Très chère Marcella. Quatre semaines, trois jours et neuf heures nous séparent de la dernière fois où j'ai senti ton odeur.
Très chère Elisa, il y a des jours où je m'imagine chez toi pendant que tu écris.
Là, c'est bien la réalité. C'est pas un rêve.
C'était qui cette fille? Celle qui t'a accompagnée?
Une fille de l'école. C'est la nièce de la directrice.
Puisque tu tiens tellement à tes études, ta mère et moi, nous avons convenu de t'envoyer dans un pensionnat, à Madrid. Hé, hey, tu vas ?
Laissez-moi ! Hey ! Laissez-moi ! Lâchez-moi ! Ah ! On est obligé de se prêter à leur jeu, de faire comme si on était comme tout le monde.
Tu sais ce qu'on doit faire.
Ego congiungo vos in matrimonio, in nomine Patri, et Filis, et Spiritus Sanctis. Amen.
Amen.
Tu pourrais nous présenter ton mari.
Pourquoi est-ce que vous vous mêlez de la vie des autres?
Au nom du gouvernement portugais, vous êtes en état d'arrestation.
La prison, ça va. Là où ça ne va pas, c'est dehors. Nous sommes des phénomènes de foire. Ouvre-moi
cette porte. Alors ce soir, dans Quasar on the Air, sur l'antenne de Radio G 101.5 FM, Arnaud nous explique pourquoi il faut regarder...
Eh bien, boum, pourquoi boum. Il faut regarder Boum Boum, en effet. Oui, tu as un peu raison, Mohamed. J'en fais partie sur cette. J'en fais beaucoup hein, sur cette compagnie. Mais parce que je n'ai jamais vu un média généraliste en faire autant pour les LGBT. J'ai parlé de séries, de films, mais vous trouverez aussi des spectacles humoristiques, comme Nanette de Hannah Gadsby, un stand-up exceptionnel. Cette Anna vous met une claque. À voir absolument. Ou alors le spectacle de Wanda Sky, Not Normal, ou Simon Amstel, Set Free. Il y a des documentaires comme Marsha P. Johnson, C'est ma famille, 40 Bon Games, Justin Fashion History. Alors, je ne vais pas détailler de quoi il s'agit, mais c'est là aussi des documentaires particulièrement intéressants. Il y en a bien d'autres de disponibles. En fait, ça foisonne de programmes. J'allais oublier de vous dire qu'on y trouve aussi Pédale Douce, Chouchou, Gazon Maudit, Poltergeist, Le Goût et les Couleurs, mais vous avez le droit de choisir vos divertissements.
Et si on trouve ça normal d'être aussi bien représenté dans les programmes, est-ce que c'est du goût de tout le monde, ça, Arnaud ?
Non, évidemment, hein, Mohamed, cette présence, notre présence, notre omniprésence dans ces programmes dérange. Il y a quelque temps, un hashtag est né sur Twitter pour en faire leurs proches. Il n'a pas duré et la chaîne a su répondre. Par exemple, Boston écrivait en août dernier dans un tweet apprécié par 22 000 tweetos, je cite, « Les gays, ils sont pas nécessaires dans vos séries ». Eh bien, Netflix lui a répondu, t'es pas nécessaire dans nos abonnés. Une réponse likée et retweetée par 41 000 personnes. Depuis, Boston a supprimé son message. Certains dénoncent aussi une homophobie bienveillante de la part du network américain. Vous aviez compris le principe de discrimination positive? Eh bien, je vais vous expliquer l'homophobie bienveillante.
Oui, dis-nous de quoi il s'agit, Arnaud, s'il te plaît.
C'est quand vous voulez vous adresser aux LGBT en leur indiquant quels sont les programmes susceptibles de leur plaire en les classant dans des rubriques telles que séries LGBT, films LGBTQ, alors que vous n'en faites pas autant pour les hétéros. Dans ce cas, vous pouvez comprendre que l'hétérosexualité est la norme, alors que l'homosexualité mérite d'être signalée et classée dans sa propre catégorie.
Ok, boomer.
Oui, merci Mohamed. Et je ne vais pas oublier de rappeler hein, quand même que l'entreprise s'est installée en Hollande pour payer le moins d'impôts possible, et ça, ça craint. Mais ce que l'on peut dire aussi, hein, c'est que cette politique gonflée fait évoluer ses concurrents. Le mois dernier, Disney Channel présentait son premier couple gay dans la série d'animation Star Wars Resistance. Comme diraient certains, le changement, c'est maintenant.
Et merci beaucoup Arnaud.
Eh bien, merci Arnaud. Écoute, ça donne envie. Hop, tiens, je t'ai mis.
Donc, j'ai pas d'action hein, chez eux.
Oui, mais si t'en proposes, bah. Alors, c'est attention maintenant, c'est l'agenda. Donc,
c'est l'agenda.
Eh bien, dans l'agenda, ce mois-ci, deux événements incommensurables. La conviviale du vendredi 20 décembre. Et pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la conviviale de Noël. Et que à Noël, tout le monde est là. Nous ne sommes pas prosélytistes, machin, tout ça. Bref, c'est un Noël œcuménique. Et la preuve d'ailleurs, on a le Père Noël. Ça. C'est sûr. Et si elle arrive à se libérer de ses obligations d'entertainment, des elfes et des nains fabricants de jouets, la mère Noël, cette année, attention, venez, en fait, et vous saurez. C'est une conviviale, donc c'est 20h30 et c'est à Quasar, au 15 rue de Jérusalem. Maintenant, ne vous trompez pas. Et alors, il y a aussi le Nouvel An. Le Nouvel An, Quasar depuis 7 ou 8 ans maintenant, déco de classe, chacun, chacune et les autres apportent ce qui elle veut et se sape pour le dernier jour d'une année merveilleuse pour les uns et le premier jour d'une année de combat et de saut de haie off presque pour d'autres. Venez à 20h avec votre bonne humeur et attaquons 2020 avec des câlins ou des bisous, des baisers sous le gui à toi Thierry pour Sons of Blues.
Merci, bonsoir à tous.
Merci, bonsoir à tous.
Au revoir. Oh, on a 5 secondes d'avance. Fou. C'est bien.